RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage en Gambie. Où plus d'un an après son départ, l'ancien président Yahya Jammeh continue d'hanter les esprits. Arrivé au pouvoir par un coup d'État, le militaire est resté 22 ans à la tête d'un régime répressif où les cas de torture, d'opposants, de disparition forcée et d'atteinte à la liberté d'expression étaient légion. Finalement, c'est par les urnes qu'il a été défait lors de l'élection de décembre 2016, acceptant dans un premier temps les résultats. Il s'est ensuite accroché au pouvoir, avant finalement d'être contraint par les forces de la CEDEAO à quitter le pays et s'exiler en Guinée équatoriale. Aujourd'hui, ses victimes réclament justice et les Gambiens veulent récupérer l'argent public qu'il a pu détourner. Mais à une centaine de kilomètres à l'est de Banjul, en territoire Diola, à la limite de la frontière avec la Casamance, son village natal de Kanilai reste son fief. C'est là qu'il a fait construire son immense résidence, mélange de villas, de fermes et de zoos, aujourd'hui gardés par l'armée gambienne. En Gambie, Yahya Jammeh raconté par son palais. Grand reportage, signé Claire Bargelès.
Donc on entre dans Kanilai. On est en train de prendre l'unique route qui mène jusqu'au palais. Les portraits de Jammeh ont disparu. Par contre, il y a toujours cette énorme mosquée en construction qui n'a pas encore été terminée. Les gens continuent à vivre normalement. On dirait un petit village comme les autres finalement, jusqu'à ce qu'on arrive au bout de cette route où il y a une immense arche. Et c'est donc l'entrée du palais de Yahya Jammeh. Donc on va s'approcher et on va aller parler aux gardes qui sont à l'entrée. Salam alaikum.
Wa alaikum salam. How are you?
I'm fine, and you?
Okay, I'm fine.
You are?
I am Captain Ousmane Boja, second in command.
Je suis le capitaine Ousmane Bojang, commandant adjoint du bataillon de Kanilai. Le bataillon de Kanilai se trouve dans la ville natale de l'ancien président. Les soldats de l'armée nationale gambienne occupent en fait sa résidence comme un camp désormais.
It's Gambian army, yes. Gambian national army.
Le capitaine Bojang monte à l'arrière de notre Peugeot pour commencer la visite. On parcourt le domaine sur plusieurs hectares, escorté par un pick-up de militaires. Un lion en pierre nous accueille avec l'inscription « Force et courage ». Autour de nous, la couleur verte. Et partout, c'est la couleur de l'ancien parti de Yahya Jammeh. Elle rappelle à la fois sa proximité avec l'armée, avec l'islam et ses accointances avec le régime de Kadhafi. Sur le côté, on aperçoit de vieux tanks rouillés, les restes de l'arsenal obsolète saisi par les militaires de la force de la CEDEAO lorsqu'ils ont découvert les lieux. Des armes sans doute utilisées pour défendre le complexe, mais peut-être aussi pour soutenir la rébellion casamançaise, libre sous Jammeh de se servir de la région comme base de repli. Notre escorte nous emmène découvrir ce qu'il reste du zoo conçu par l'ancien président.
Ça, c'est un bassin à poissons créé par l'ancien président. Il a été construit artificiellement.
Donc il y a cette sorte de pont au-dessus d'une retenue d'eau artificielle en plein milieu de la forêt avec donc plusieurs crocodiles, on les voit bien. C'est assez étonnant. Et au milieu, je rentre à l'intérieur, il y a une sorte de salle de séjour pour contempler l'eau et les poissons.
Les gens venaient ici, les touristes par exemple, pour voir tout ça. Et des fois, les poissons étaient pêchés pour être distribués à la communauté. Mais ce n'est plus alimenté maintenant. Vous voyez, c'est de plus en plus sec. Il y avait beaucoup d'autres animaux. Mais les zèbres sont retournés dans le bush. On ne peut plus les contrôler car on n'a plus de nourriture. Donc ils sont laissés à l'état sauvage. Et les chameaux, la plupart sont morts.
Plus loin, dans un enclos, des hyènes qui n'ont visiblement pas mangé à leur faim depuis longtemps tournent en rond dans une cage.
Ici, c'est l'un des enclos du zoo. Il veut qu'on entre, mais j'ai dit non. Elles ne sont pas très amicales.
They are no friends.
À l'époque de Yahya Jammeh, le village Diola et son palais étaient des lieux très animés. Outre les touristes venus découvrir la Gambie rurale, des artistes et des sportifs étaient régulièrement invités pour mettre en avant les talents locaux.
L'ancien président avait l'habitude d'organiser des festivals culturels. Donc les bâtiments à l'entrée ont été construits spécialement pour accueillir les spectateurs ou les participants qui venaient pour ces festivals. C'était vraiment de grandes cérémonies, avec des Gambiens de la diaspora ou des participants de pays voisins qui se déplaçaient exprès pour y assister. Il y avait de la danse, des compétitions de lutte et plein d'autres choses.
Autour du zoo, des champs à perte de vue, Yaya Djamé se rêvait en père nourricier du pays et avait ébauché une politique de retour à la terre dans l'espoir que la Gambie devienne un jour autosuffisante. L'ancien leader était d'ailleurs le premier fermier du pays avec sa compagnie, la Canilay Farms, qui avait le monopole du marché.
Every year he will take his leave.
Chaque année, il prenait un congé et venait voir ses fermes, et les gens venaient y travailler volontairement. Il cultivait des céréales comme du millet et des arachides, et ses travailleurs n'étaient pas payés. Et même dans l'armée, nos chefs nous ordonnaient d'aller aider, alors on le faisait. Moi-même, j'y ai participé.
Des hommes habillés en civil s'activent au loin pour déblayer les allées et continuer à cultiver de quoi survivre.
Il y a encore des gens qui viennent travailler ici, comme ceux que vous voyez là-bas. Ils travaillent volontairement pour que l'endroit reste entretenu. Ils ont travaillé très longtemps pour l'ancien président.
Parmi eux, un jeune homme, appuyé contre un baobab, accepte de nous parler.
Je m'appelle Dembo Djamé. Je suis originaire de Canilay. Je suis un volontaire dans cette ferme, la Canilay Family Farm. Ce qui me motive à venir, l'amour que j'ai pour le Big Man et la sympathie que j'ai pour les animaux. Je pense que c'est mon devoir de le faire. Tous les jours, quand je m'assois, je rêve qu'il revienne dans son village, car il vient d'ici. Et quoi qu'il ait laissé ici, il doit être préservé. Ça me rend triste.
À l'abri des regards se trouve la partie résidentielle. Un premier complexe de 4 villas se perd dans un labyrinthe de végétation. Selon les rumeurs, c'est là que le président recevait ses nombreuses conquêtes féminines. C'est le major Wassa Camara qui prend le relais de la visite.
Je sais qu'il avait l'habitude de venir ici pour se relaxer. Vous pensiez qu'il résidait à cet endroit, mais en fait, il dormait là-bas. Vous savez, il brouillait les pistes, on le croyait là-bas, mais en fait, il était dans cet autre bâtiment. Et ces villas étaient aussi utilisées lors de retraites, pour les ministres ou les dignitaires. Ils habitaient là le temps de leur séjour à Canilay.
Wassa Camara est le chef du bataillon de Canilay, une position un peu incongrue pour lui, puisqu'il a passé 9 ans en prison sous Djamé, qui le suspectait d'avoir soutenu un coup d'État. Aujourd'hui, il parcourt avec calme la propriété de son ancien chef d'État et il tient à nous montrer un endroit très particulier.
Those are herbs, the bark of trees.
Ça, ce sont des plantes.
Peel, roots.
Des écorces de bois, des feuilles, des racines. Tout ça pour faire des traitements à base de plantes. Certaines choses seront pilées, d'autres seront bouillies, comme vous voyez là, par terre.
C'est un peu la cuisine secrète de Yaya Djamé, cachée entre 2 villas. Là où celui qui s'était autoproclamé guérisseur traditionnel préparait ses remèdes. Aujourd'hui, on sait que plusieurs de ses patients en sont morts.
Là où on se trouve, c'est là qu'il transformait les plantes en remèdes pour les patients. Il disait pouvoir guérir les gens atteints du sida, les problèmes d'infertilité, les cas d'asthme, de tuberculose même. Ce bâtiment où on était avant, c'est là qu'il faisait bouillir ses préparations. Ensuite, il les mélangeait avec de l'eau ici, où on se trouve actuellement. Puis, il les conditionnait dans ces bidons qu'on voit là en face de nous.
Retour avec le capitaine Bojang pour la fin de la visite. Sur un chemin de terre, des enfants s'amusent avec des bouts de plastique. Leurs parents font partie de la famille de Djamé et habitent toujours dans une partie du complexe. Au bout de la route, un bâtiment illustre la proximité que l'ancien militaire, devenu homme d'État, entretenait avec l'armée, pilier de son régime.
C'est une école militaire qui a été construite pour former les soldats qui sont postés à Canilay, et aussi souvent ceux qui font partie de la garde présidentielle. Ils s'entraînent dans ces bâtiments. Maintenant, on les utilise pour nous comme résidence.
Nous pénétrons ensuite au sein de la résidence personnelle de Yaya Djamé, gardée par de grands portails. À l'entrée de la cour, cour, on découvre un portrait géant, une photo de son excellence, le cher professeur Aladji Dr. Yahya Adjedje Jammeh, de son titre complet, le Babili Mansa, soit le roi qui défie les rivières. Il enlace sa femme guinéo-marocaine et ses deux enfants, les couleurs du pays en arrière-plan. Des paons se promènent dans ces lieux déserts et des perroquets en cage s'animent. Là, on pénètre à l'intérieur du hall de la maison d'Yahya Jammeh.
Oui, c'est là qu'il réside normalement quand il vient.
Dans le hall où on se trouve, qui est complètement fait une mosaïque de yin et de yang, donc il reste des bouts de matériel, des pieds de micro, des tables pour apparemment permettre d'organiser des célébrations. Un vieux lustre tout plein de poussière et encore visible en haut.
C'est dans ce hall qu'il se divertissait, quand il y avait des concerts ou des groupes culturels juste pour s'amuser. En fait, c'est la première fois que je rentre ici. Je n'étais jamais rentré avant, donc je ne peux pas dire grand-chose de ce qui est là-dedans. Je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais je ne pensais jamais un jour mettre un pied dans cette maison comme ça et voir ces choses.
Il n'y a pas d'électricité et une odeur de renfermé prend tout de suite à la gorge. Toute notre escorte devient très silencieuse dans le noir. C'est un peu comme si tout d'un coup on profanait un lieu sacré en plongeant dans l'intimité de l'ancien leader. Alors il faut oublier les images de grands palais à la Mobutu ou Ben Ali. La résidence de Jammeh ressemble à une petite maison, bien équipée et au-dessus des standards gambiens, mais sans le faste des villas de luxe.
C'est juste une maison de taille normale, simple. Quand on dit qu'on va voir la résidence de l'ancien président, on pense découvrir un immense manoir. Mais en fait, non. Voilà ce qu'on peut voir.
À l'intérieur, les couloirs sont remplis de cartons à moitié éventrés. Des rideaux poussiéreux cachent l'entrée de chaque pièce. Parmi tous les objets entassés, des tableaux de Yahya Jammeh, des photos de sa famille. Dans un cadre, une carte de fête des pères, remplie de l'écriture maladroite de son fils, âgé à l'époque de 8 ans.
This may be gifts.
Ça doit être des cadeaux qu'il a reçus, des portraits faits par des gens.
And this is the picture when he was.
Et là, c'est une photo de quand il était dans l'armée. Celle-là, c'était pendant le coup d'État.
During the coup.
Là, on se trouve plus dans le salon. C'est pas un salon très impressionnant, en fait. On peut voir quand même une télé au milieu, un grand canapé en coin. Mais rien de très luxueux, de vraiment très impressionnant. Le sol est en carreaux assez classique. Il y a quelques sculptures. Ça dégouline pas d'or ou de marbre.
Ici, je crois que ce sont certaines de ses chaussures qu'il portait.
Au-dessus de ces paires de babouches sont encadrées des sourates du Coran en écriture dorée, un rappel de l'instrumentalisation de l'islam par l'ancien président qui avait déclaré en 2015 que la Gambie serait désormais une république islamique. Se trouvent aussi des choses plus triviales qui offrent un portrait de Jammeh plus intime, plus détendu. Au détour d'une pièce, on aperçoit un appareil de musculation, une quantité de chenifi ou encore un DVD de Dirty Dancing appartenant à l'un des membres de la famille. Ses proches collaborateurs racontent que l'ancien chef d'État vivait beaucoup de nuits, regardant des matchs de boxe à la télé ou relisant des rapports.
Là, ce sont très probablement les chambres. Il y en a une ici et une autre là. Bon, elles n'ont rien d'extraordinaire. Et ça, c'est un balafon. Ça doit être un cadeau qu'on lui a fait.
Il s'agit sans doute de la chambre des enfants, mais nous n'aurons pas le temps d'en voir plus. La visite se termine au pas de course. On sent les militaires mal à l'aise, tendus. Ce n'est qu'une fois de retour à l'extérieur qu'ils respirent à nouveau. En face, une immense villa est en construction. Elle semble répondre aux ambitions de Yahya Jammeh de construire un véritable palais. Un bunker a même été creusé en dessous. Alors si les bâtiments ne trahissent pas les goûts de luxe du maître des lieux, les biens avec lesquels il est parti sont plus révélateurs. 3 voitures de collection remplies d'objets. Yahya Jammeh est soupçonné d'avoir pioché des centaines de millions d'euros dans les comptes publics durant sa présidence. Depuis août dernier, une commission d'enquête est à la charge d'examiner tous ses comptes et ses possessions. Aliou Diallo, du ministère de la Justice, est en charge de la centaine de propriétés foncières de l'ancien président, dont Kani Lai, qui ont été gelées par les tribunaux.
Tout a été entreposé à Kani Lai dans l'urgence. C'est pourquoi on ne peut pas dire exactement ce qu'il y a là-dedans, sans tout bouger. Il y a des voitures, il y a aussi quelques 4x4. On a aussi trouvé des défenses d'ivoire. On va faire un inventaire de tous les objets là-dedans. Mais en effet, ça va demander beaucoup de travail.
Des biens ont aussi été découverts dans les coffres de voitures restées à l'aéroport. Des pistolets plaqués or, des bijoux libanais en pierres précieuses. Ils sont pour l'instant gardés dans les coffres de la commission d'enquête. Quant au bétail des fermes de Kani Lai, il a récemment été vendu aux enchères. Du côté des investigations criminelles à l'intérieur du palais, elles sont au point mort. Pourtant, les forces de l'ordre ont entrepris des fouilles, comme le détaille David Koudjabi, porte-parole de la police.
Avec le changement de gouvernement et le nouveau régime, on a recueilli des informations sur des corps qui auraient été enterrés dans et autour de Kani Lai. Et en partant de ces informations, la police a effectué des fouilles un peu partout et même à l'intérieur d'un puits. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé. Avec les informations que l'on a pour l'instant, nous n'avons rien pu trouver, mais cela ne veut pas dire que nous en avons fini avec tout ça. Selon les nouvelles informations que l'on pourra recevoir, on est prêt à continuer les recherches.
Hors du palais, dans le village, le calme règne. Très peu de voitures empruntent la route qui le traverse. La vie est comme suspendue depuis le départ de l'homme au boubou blanc. Pour les habitants, majoritairement de l'ethnie Diola, la même ethnie que l'ancien leader, le contraste par rapport aux dernières années est saisissant. Âgé de 20 ans, Toumani avait jusqu'à présent toujours vu le siège de président être occupé par Yahya Jammeh.
À l'époque, quand il venait à Kani Lai, on allait l'accueillir. On se tenait là-bas, au croisement principal, et on l'accueillait jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Des fois, il venait nous voir chaque semaine, des fois chaque mois. Et il organisait des festivals ici et invitait d'autres pays, un mois entier juste pour que tout le monde se divertisse. C'était vraiment un grand événement. Quand il était ici, c'était facile, on avait l'électricité comme ça. Mais maintenant, il faut payer 3000 dalassis pour acheter l'électricité. Et quand c'était Ramadan, il payait pour que chacun ait du sucre, des sacs de riz, des oignons, de l'huile et de la viande. Maintenant, on est vraiment mécontent de la situation, la façon dont on est maltraité. On est mécontent.
Même nostalgie pour Massané, qui voit son village perdre tout dynamisme.
Quand Jammeh était là, la vie était normale. Les gens s'activaient, il y avait du travail. Tout le monde arrivait à gagner un peu pour pouvoir payer ses achats quotidiens. Il faisait construire beaucoup de choses, donc cela créait des opportunités d'emploi et chacun arrivait à gagner sa vie. Mais depuis que Jammeh est parti, la vie est vraiment de plus en plus difficile. Aujourd'hui, les gens vivent grâce à la vente de charbon et de bois. Le village est devenu très isolé. Jammeh, c'est Kani Lai. Et Kani Lai, c'est Jammeh. Il en fait partie et il manque à son village natal.
Mais certains ont encore des ambitions pour Kani Lai. L'hôtel adossé au palais, fermé depuis le départ de Yahya Jammeh, vient d'être repris dans l'espoir d'attirer à nouveau les clients. Baboukar Touré supervise sa réouverture.
Hi, welcome to Sindola.
Bonjour, bienvenue à Sindola. D'un point de vue économique, avant, c'était un endroit lucratif pour l'hôtel, parce que c'était là que logeaient les dignitaires ou les personnes d'importance, et ils pouvaient trouver le confort qu'ils souhaitaient. Mais comme vous le voyez aujourd'hui, la situation a totalement changé. Il faut que l'on revoie la stratégie, nos plans marketing. Les gens pensent que Kani Lai n'est plus sûr désormais. On essaie de faire en sorte que l'endroit soit attractif. Il faut que l'on travaille là-dessus, pour attirer les touristes. Cela aidera les communautés locale et le pays. Je pense que Kani Lai a beaucoup de potentiel culturel. Je pense que l'on peut rendre ça attractif et on pourra ramener la paix et la prospérité que l'on connaissait avant.
Alors, que deviendra Kani Lai ? Une curiosité touristique, un centre de conférences, un village à l'abandon. À la fin de son enquête, la commission créée par le gouvernement devrait inscrire des propositions dans son rapport, allant d'une possible vente à la reconversion du complexe. Mais c'est le nouveau président qui aura la main sur la décision finale. En Gambie, Yaya Diame est raconté par son palais. Un grand reportage de Claire Bargelès, réalisation Pauline Leduc.